Alouette Mag.
Alouette Mag,
le magazine de la rédaction d'Alouette.
Bonjour, je suis Alexandrine Douai. Cette semaine, Alouette Mag vous emmène dans les coulisses du Futuroscope.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
32 ans après, c'est une entreprise rentable. C'est le poumon économique du département, c'est sa vitrine.
Depuis sa création en 1987, le Futuroscope n'a jamais cessé d'innover. Rodolphe Boin, devenu l'an dernier président du Parc de l'Image, a pour ambition de le faire encore grandir. Rodolphe Boin, tout juste quadragénaire, qui succède à l'emblématique Dominique Hummel, resté en poste pendant 15 ans. Pour ce nouveau numéro d'Alouette Mag, il revient sur son parcours, évoque aussi les différentes collaborations du Futuroscope, les nouveautés ainsi que les projets du parc. Au programme également, une rencontre avec Aurélien Méry. Arrivé au Futuroscope en 2015, il a été nommé il y a 2 ans au poste de responsable des animations et spectacles vivants. Depuis le début de l'été, Rodolphe Boin, Aurélien Méry et toute leur équipe sont à pied d'œuvre pour que les visiteurs vivent un moment exceptionnel au sein du parc.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
Rodolphe Boin, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. Vous êtes donc depuis avril 2018 président du directoire du Futuroscope.
J'ai effectivement depuis le 1er avril la chance de diriger cette magnifique entreprise.
L'été, forcément, c'est un rendez-vous important pour le parc avec une fréquentation en hausse à ce moment précis.
Alors oui, c'est évidemment les mois les plus importants. C'est 600 000 visites à l'intérieur d'une année qui fait 1 900 000 visites. Donc c'est 30% de l'activité sur les mois de juillet et août, avec un pic d'activité plutôt entre le 1er et le 15 août.
Alors comment est-ce qu'on se prépare justement à faire face à une hausse du nombre de visiteurs ? Il y a évidemment certainement plus de personnel, une sécurité renforcée aussi ?
Alors c'est toutes les équipes qui sont effectivement dopées. On recrute 400 personnes de plus que ce qu'on nous avons l'habitude d'avoir en avril, en mai ou en juin. Donc c'est vraiment une grosse activité. 1300 personnes travaillent sur le parc au service des visiteurs, pour satisfaire les visiteurs. Oui, on renforce en sécurité, en restauration, en boutique et évidemment en accueil. Et puis on dope de manière très forte également le dispositif d'animation pour que ce soit la fête sur les 2 mois.
Le dispositif d'animation, c'est-à-dire qu'il y a des rotations un peu plus importantes concernant les projections ?
Oui, exactement. Alors déjà, on est ouvert bien plus longtemps puisqu'on veut que nos visiteurs soient à l'aise et prennent leur temps. Donc on ouvre plus tôt le matin, entre 8h30 et 9h. On ferme plus tard également, à 22h30. Et puis on essaye d'animer très fortement nos allées avec un peu plus de personnages, avec des fanfares également. Et puis des personnes qui viennent à votre rencontre dans les files d'attente, notamment pour faire des maquillages, pour faire de la sculpture sur ballon, ou pour vous offrir un café ou un verre d'eau, pour qu'on soit vraiment dans une ambiance conviviale et une communion en fait entre salariés et visiteurs, puisque c'est un petit peu notre marque de fabrique. On est très très attachés à une note de satisfaction qui est l'accueil, et on est considéré comme étant les numéro 1 dans ce domaine-là.
Voilà, l'accueil, c'est-à-dire qu'on ne passe pas simplement de salle en salle de projection.
C'est exactement ça. On vient d'abord pour consommer les attractions, mais on essaye vraiment dans nos investissements et dans nos dispositifs humains de faire en sorte qu'il se passe un tas de choses en fait en dehors des attractions. Quand on va d'une attraction à une autre, il faut que les gens on suscite leur curiosité, ou alors on croise un des membres du personnel du Futuroscope qui vous distille un conseil, un sourire, parce qu'on est très attaché encore une fois à ces interactions-là, et il y a beaucoup de monde qui travaille et qui est là pour satisfaire le visiteur.
Un petit coup d'œil dans le rétro, un bref rappel historique, le Futuroscope a ouvert ses portes, c'était en 1987, alors à l'époque c'était le département de la Vienne présidé par René Monory, vous n'étiez pas encore là, qui était donc à l'origine de la création du parc. L'ambition c'était de faire découvrir la science, les technologies au grand public, le tout de façon ludique. 32 ans après, on peut dire que le postulat de départ est largement respecté.
C'était un pari fou. René Monory avait effectivement, avec l'aide de la collectivité, donc le département, avait fait des études de marché en fait, qui lui avaient toutes démontré que ça n'était pas possible. Il les a mis à la poubelle et il a fait ce projet-là qui a tout de suite rencontré son public. Et oui, 32 ans après, c'est une entreprise rentable qui fonctionne bien, qui oscille aux alentours de 2 millions de visites. C'est le poumon économique du département, c'est sa vitrine. Donc c'est quelque chose qui est très 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 important dans son territoire, ancré dans son territoire. Et on essaie évidemment de tenir ce rôle-là également, parce qu'on est évidemment très important dans ce département, qui est toujours partenaire d'ailleurs, puisqu'il est, il est actionnaire, et puis il est propriétaire également des murs. Nous sommes des simples locataires, donc c'est toujours le département qui a la possession du Futuroscope.
Paris complètement fou, vous le disiez, il y a 32 ans, il y a eu cette grande construction en plein milieu de la campagne.
Oui, la population. Alors moi, j'habitais pas là. Effectivement, j'habitais en Charente-Maritime. Mais j'ai connu assez vite le parc en tant que visiteur, avec les yeux émerveillés. C'est le seul endroit où on voyait de la 3D. C'est le seul endroit où on voyait du cinéma dynamique. Les choses se sont construites très très vite. Oui, je me plonge assez souvent en fait, moi, dans cette première ère, parce que je veux pas oublier d'où vient le parc en fait. Quels sont ses gènes, ses racines, et c'est très inspirant pour l'avenir. Et il m'arrive encore de croiser des personnes qui ont travaillé avec René Monory dans le cadre de ce projet qui a encore une fois été très inspirant. Donc très très belle réussite, oui.
René Monory, visionnaire, qui a profondément évidemment marqué l'histoire du département. Et on peut dire que le Futuroscope était à l'avant-garde puisqu'il a ouvert ses portes bien avant Disneyland ou encore le parc Astérix, pour ne citer que.
Ça a été un des premiers, en tout cas le premier de cette taille-là. Donc on était effectivement là avant les autres. Donc ça renforce encore cette forme d'audace que René Monory et le département avaient. C'est ce qui le caractérise le plus d'ailleurs, l'audace. On en a encore un peu différemment parce qu'on construit les attractions différemment dorénavant. Mais c'est vraiment une des valeurs qu'il faut cultiver et pour l'avenir, quelque chose qu'il faut absolument cocher. Il faut continuer à être audacieux. Le Futuroscope est né par de l'audace et on fera de belles choses dans les années qui viennent pour continuer à poursuivre cette belle œuvre.
Vous, Rodolphe Boin, vous êtes président du directoire du Futuroscope, on le disait à l'instant. Vous êtes très récemment arrivé à ce poste, mais le Futuroscope, vous le connaissez par cœur. Alors expliquez-nous pourquoi.
Je le connais par cœur parce que c'est ma seule et unique entreprise. Je suis né professionnellement ici il y a 19 ans. J'ai fait mon stage de fin d'études au Futuroscope, au service accueil, au cœur du réacteur. Et puis j'ai eu la chance d'y faire 8-9 métiers maintenant, complètement différents. Donc je connais très très bien le parc, je connais très très bien les gens qui font tourner le parc. J'y suis très très attaché. C'est une entreprise qui, au-delà des considérations économiques, est très très attachante, avec des dimensions humaines qui sont extraordinaires. Donc oui, quand on a un parcours comme ça au sein du Futuroscope, on essaie finalement de rendre ce que l'institution vous a rendu, en essayant de prendre ses responsabilités, mais toujours avec des valeurs humaines, en étant proche de l'ensemble du personnel.
Donc on peut dire que vous êtes un pur produit Futuroscope.
Exactement.
Aujourd'hui, il existe beaucoup de parcs dans le Grand Ouest, plus largement en France et même en Europe. Comment est-ce que le Futuroscope réussit à tirer son épingle du jeu ?
Alors vous avez raison de dire que de plus en plus la concurrence est forte, avec des produits qui sont de jolis produits et qui ne sont pas très loin. On a beaucoup de jolis parcs proches du Futuroscope. C'est une bonne nouvelle parce que ça crée le marché grossit. Et puis la concurrence, c'est une saine émulation et ça nous oblige à toujours faire mieux, à toujours aller plus haut. Et puis il y a de la place pour tout le monde. Nous, notre marque de fabrique, c'est notre positionnement qui est un petit peu différent. On suscite la curiosité. On a une offre qui est très très diversifiée, intergénérationnelle, pour tous les goûts. Nos valeurs principales, c'est le partage en famille, puisque le cœur de cible, ça reste malgré tout les familles. Et encore une fois, on est très attaché à ce partage en fait en famille, et ce partage également avec les visiteurs, avec une notion d'accueil qui est très forte pour nous.
Vous, depuis votre arrivée l'an dernier, que pensez-vous apporter précisément à ce parc ?
Bon, d'abord, il faut continuer une œuvre, parce qu'il ne s'agit pas d'être complètement dans la rupture. Évidemment, chacun apporte sa patte avec sa sensibilité. Je ne parlerai pas forcément de moi, je parlerai plutôt de l'équipe dirigeante qui a été un petit peu revue, parce que quand on prend les rênes d'une entreprise comme ça, évidemment, on change un petit peu le casting. On a de belles ambitions pour l'avenir, on a de jolis projets construits toute l'année dernière. Donc on va essayer de positionner l'ambition un petit peu plus haute, puis le faire avec notre trip, mais encore une fois, en essayant de ne pas renier l'histoire et en s'imprégnant assez fortement des gènes et des chromosomes du Futuroscope depuis sa naissance il y a 32 ans.
Donc beaucoup de projets dans les cartons, si je comprends bien.
Oui, beaucoup de gros projets. Alors on a une très belle livraison cette année qui est Futuropolis, qui est la ville des enfants. C'est un petit parc dans le parc. C'est 21 attractions qui sont dédiées pour les enfants. Et puis en 2020, nous aurons la plus grosse attraction que le Futuroscope n'ait jamais fait, tout début 2020, qui sera une attraction un peu plus à sensation par rapport à ce que le Futuroscope a eu l'habitude de faire. Et puis on aura ensuite un programme d'investissement assez offensif sur les 10 ans qui viennent, puisqu'on raisonne à 10 ans.
Une attraction à sensation, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce qu'il va y avoir des montagnes russes ? Ce sera une sorte de Space Mountain, si on doit citer une autre attraction d'un autre parc ?
Alors ce sera sur la thématique de l'espace, sur la conquête de l'espace. C'est une thématique qui existe depuis le début au Futuroscope et qui colle bien au positionnement, avec oui un petit peu plus de sensation, avec une partie de l'attraction qui sera effectivement sur des rails, avec des descentes un peu plus rapides que le Futuroscope a eu l'habitude de l'avoir. Mais pas uniquement, parce qu'on ne veut pas rajouter de la sensation pour rajouter de la sensation, il faut le faire avec les codes de la marque du Futuroscope, avec le positionnement du Futuroscope. Donc ce sera quelque chose qui sera un dispositif technique à sensation, mais au service d'une histoire immersive et au service d'un sujet qui suscite la curiosité, qui est la conquête de l'espace.
Alors justement, qu'est-ce que c'est que la marque Futuroscope ? Expliquez-nous.
Alors c'est assez compliqué à définir en fait, et le positionnement a un petit peu changé ces dernières années puisqu'on est évidemment très très à l'écoute de ce que nous disent les visiteurs. Les visiteurs nous disent d'abord on vient s'amuser, on vient se retrouver, se ressourcer, rompre avec le quotidien, et on a envie de sourire et on a envie de rire. Donc on a fait un pas un peu plus fort vers le ludique en intégrant notamment les lapins crétins en 2013. Mais il faut pas que ce soit, faut que ce soit un plaisir intelligent. Et donc, on aime bien avoir des dispositifs qui sont fun, mais qui suscitent la curiosité et qui font que quand on ressort du Futuroscope, on ressort pas tout à fait comme on est rentré, puisqu'on a été séduit par une attraction ou une autre qui nous a donné à réfléchir sur un sujet en fait.
Derrière les lapins crétins Ubisoft, donc ça fait partie des nombreuses collaborations. Il y a bien sûr cette collaboration avec Luc Besson pour Arthur et les Minimoys, Sébastien Loeb, Thomas Pesquet. Comment est-ce qu'on met en place toutes ces collaborations précisément ?
Il n'y a pas vraiment de règle en fait. Et on ne cherche pas une licence ou un nom pour chercher une licence ou un nom. On regarde vraiment ce qu'ont fait les gens et on essaye de voir si on a une compatibilité et si ces personnes-là peuvent nous apporter un plus et une valeur ajoutée dans la création même de l'attraction. C'est ce qu'on a fait avec Sébastien Loeb. On n'a pas été chercher le nom de Sébastien Loeb, on a été chercher un très grand pilote, le plus grand pilote de rallye de tous les temps, pour qu'il nous aide à construire cette attraction-là. Et il a été très 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 impliqué dans chacune des étapes du process de création de cette attraction-là. Donc oui, on s'est souvent adossé à des compétences de ce type-là. Et on le fera certainement à l'avenir, mais encore une fois, pas forcément uniquement pour avoir une question artistique ou de communication en fait. Thomas Pesquet, c'était une évidence pour le Futuroscope, puisque son aventure colle bien avec ce qu'on a envie de faire, à savoir susciter la curiosité sur des grands dispositifs technologiques. Et puis ensuite, chacun des mariages en fait est fait soit parfois de dispositifs de créativité ou de réflexion très poussés, où on essaye de réfléchir à qui on pourrait s'associer, et parfois tout simplement fait d'opportunités et de belles rencontres.
Et justement, pour Sébastien Loeb, précisément, comment est-ce que ça s'est passé ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans l'équipe qui disent « Ah tiens, ça serait bien qu'on fasse une attraction sur le thème du pilotage automobile. Je pense à Sébastien Loeb. » Donc, vous démarchez, vous allez le voir, c'est ça ? C'est comme ça que ça se passe ?
Je ne saurais même plus dire si c'est lui qui est venu ou si c'est nous qui sommes allés à sa rencontre. Donc non, on n'a pas eu un process très très fourni pour aboutir à Sébastien Loeb. On a parlé avec Sébastien Loeb et son entourage. Par ailleurs, on savait qu'on avait une technologie qui s'appelait les casques de réalité virtuelle, qui nous semblait être un élément incontournable au Futuroscope. Et on fonctionne comme ça en fait. On a en stock toute une batterie de technologies, et puis à côté en stock des thématiques. Et puis ensuite, il faut faire l'assemblage en fait entre la technologie et les thématiques ou les sujets. Pour faire en sorte d'avoir une très jolie attraction immersive avec une technologie qui dorénavant ne suffit plus. Il faut que ce soit une technologie qui est au service d'une histoire. Il y a encore 20 ans, on montrait la technologie. On avait de jolis projecteurs et on les montrait. Maintenant, on cache cette technologie-là, puisqu'elle est au service d'une expérience un peu plus globale, en fait.
Imaginez un vol autour du monde avec pour seul carburant la lumière du soleil.
Il y a donc les nouveautés. Planète Power, par exemple, qui retrace l'épopée de Bertrand Piccard.
De Bertrand Piccard et André Boschberg, ouais, très très belle aventure, qui nous a permis également de lancer une ambition un petit peu plus forte d'un point de vue environnemental. Donc on essaye de bien faire les choses de ce point de vue-là aussi. On s'appelle Futuroscope, il y a futur à l'intérieur, futur et environnement, ça colle plutôt bien. Donc on s'est lancé dans une démarche éco-responsable très très forte. Et donc c'était intéressant de se marier avec ce film-là et avec ces héros des temps modernes pour lancer cette dynamique-là.
Vous avez évoqué cette thématique de la préservation de l'environnement, le développement durable. Ça, c'est quelque chose qui tient particulièrement à toute l'équipe du Futuroscope. Donnez l'exemple.
Oui, on l'a toujours fait. Mais c'est vrai qu'on a renforcé un peu ça depuis février en se donnant des ambitions un peu plus fortes. de réduction de notre facture énergétique, de gestion des déchets, parce que 1 900 000 visites, ça produit des déchets. Donc on s'active très fortement sur ce sujet-là. Et puis aussi des thématiques qui sont tendances, comme raccourcir les circuits courts dans nos approvisionnements en termes de denrées, de restauration, ce qui permet d'ailleurs de faire marcher l'économie locale. Et c'est logique qu'on aille encore un peu plus vers ces sujets-là, parce que le Futuroscope est né d'une impulsion d'une collectivité, d'un territoire, le département de la Vienne. Donc il faut lui rendre ce qu'il nous a donné et assumer notre rôle de poumon économique de ce beau département.
Alors qu'est-ce que ça représente comme budget ?
Alors c'est des choses qui sont pas forcément qui peuvent être rentables sur le long terme, mais vous avez raison de dire que à partir du moment où on décide ça, ça coûte de l'argent. Moi j'ai l'habitude de dire que quand on met tout mis bout à bout, cette politique-là peut coûter 500 000 euros par an.
Donc le parc est éco-responsable, on peut le dire.
Le parc est éco-responsable et progresse dans cette voie-là et a d'ailleurs de jolis labels comme la certification ISO 50001. Je crois qu'on est les seuls à avoir cette certification-là et on va aller chercher d'autres labels dans les années qui viennent pour montrer qu'on fait bien les choses. Et c'est pas forcément que pour le communiquer d'ailleurs parce que c'est quelque chose de stimulant en interne. C'est un projet commun que l'ensemble des collaborateurs doivent porter.
Le futur, ce sont les sciences, les technologies, mais là aussi, préserver l'environnement, ça fait encore plus partie de ce que sera notre futur.
Oui, ça fait partie des thématiques un peu incontournables. Quand on réfléchit au futur, on a l'habitude de dire que le futur est de plus en plus certain finalement, parce qu'on a peut-être un petit peu moins de rêves. Alors nous, on essaie de les activer, ces grands rêves de l'homme. Mais l'environnement, c'est évidemment, avec la conquête de l'espace par exemple, des thématiques qui resteront fortes pour le Futuroscope.
Un petit mot des visiteurs. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ?
Un visiteur sur deux vient passer la journée, une seule journée au Futuroscope et donc fait l'aller-retour dans la journée. Donc ceux-là habitent jusqu'à 2h30 de route. Et l'autre moitié vient d'un peu plus loin, donc avec une première couronne avant 3h de route et puis ensuite avant 5h de route et ensuite bien au-delà, plus de 5h de route. Donc on a en gros un tiers de visiteurs à moins de 2h, un tiers de visiteurs entre 2 et 5h et un tiers de visiteurs au-delà de 5 heures, intégrant une partie à l'international, notamment Barcelone, Londres et la Belgique. C'est plutôt les familles françaises, à hauteur de 70%, de plus en plus de grands-parents avec leurs petits-enfants, et puis évidemment des amis et des adultes sans enfants.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent dans le département spécifiquement pour aller au Futuroscope.
Oui, exactement. Et c'est 2/3 de nos visiteurs. Donc alors l'été, il arrive que les gens fassent une étape en fait au Futuroscope en allant sur les côtes atlantiques par exemple. Mais 2/3 de nos visiteurs viennent spécifiquement pour le Futuroscope et une partie significative donc coche 2 jours, une nuit ou 2 jours, 2 nuits. Donc on devient de plus en plus une destination de court séjour et c'est forcément l'axe stratégique numéro 1 pour les années à venir.
On le voit précisément ces dernières années, le public familial, vous souhaitez de plus en plus l'attirer. Donc évidemment, on évoquait les lapins crétins, il y a l'âge de glace ou Arthur et les Minimoys. Le public familial qui était un petit peu oublié peut-être au tout début du parc.
Peut-être, oui. En tout cas, on en a fait une priorité, mais sans oublier aucun segment de clientèle, parce qu'on veut vraiment être intergénérationnel et on veut qu'il y en ait pour tous les âges, pour tous les goûts. Mais oui, vous avez raison de dire que, mais c'est normal, ceux les plus nombreux, on a un peu plus fortement renforcé notre programmation pour satisfaire les familles.
Avec aussi un dispositif particulier pour les familles, c'est-à-dire que quand le petit dernier est trop petit pour une attraction, il y a la possibilité de rentrer malgré tout dans l'attraction et d'en faire profiter le plus grand. Papa, maman échangent leur place.
Exactement. Papa peut commencer et puis ensuite papa vient récupérer le plus petit et maman peut aller faire l'attraction. On essaie vraiment de se mettre en cadre pour satisfaire les visiteurs et bien les accueillir. Et c'est évidemment logique que nous soyons en capacité d'assumer ce type de logistique.
Alors aujourd'hui, l'offre d'attractions, de spectacles s'étoffe. Vous disiez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour une journée, mais de plus en plus, vous proposez des séjours.
Oui, exactement. Et ce sera l'axe stratégique retenu pour les années à venir. Faire venir de plus loin et faire rester plus longtemps, considérant que c'est peut-être plus facile de croître en fréquentation en ajoutant une journée de visite pour des clients qui nous sont acquis, plutôt qu'à les conquérir d'autres visiteurs. Un Français sur deux a déjà consommé le Futuroscope, donc ça veut dire qu'on peut encore aller en conquérir d'autres. Mais on a déjà là, avec un Français sur deux, de quoi faire, et donc on va essayer de les faire revenir avec les nouveautés et les faire rester plus longtemps en leur proposant plus de contenu. Ce sera l'objet du programme d'investissement des années à venir.
Il y a donc ces projections de films, ces projections en 3D, mais il y a aussi eh bien, des spectacles vivants. Je pense par exemple à Illusio, ce spectacle de magie qui a été primé l'an dernier. Spectacle de magie, ce spectacle imaginé par Bertrand Lotte.
Oui, c'est la force du Futuroscope, c'est la diversité de ces expériences. On est fait d'image, on restera fait d'image, mais on propose une batterie, une diversité d'attractions et d'expériences vraiment très différentes les unes des autres. Alors on utilise l'image, mais qui est maintenant une matière première et un ingrédient qui ne suffit pas forcément. Donc on l'a un petit peu partout dans chacune de nos attractions, mais vous avez raison de dire que l'intégration du spectacle vivant, par exemple, avec Illusio, avec un autre show qui s'appelle Cube, fait dorénavant partie de la palette du Futuroscope, et je pense même que c'est quelque chose que nous allons densifier dans les années qui viennent.
Où en est-on du projet de deuxième parc ?
On a beaucoup de projets dans les cartons. On essaie surtout de faire les choses dans l'ordre, en fait. De bien réfléchir à densifier les différents contenus à l'intérieur du parc et à l'extérieur du parc créer de nouveaux contenus, avoir des capacités d'accueil qui sont plus importantes avant d'aller croître en fréquentation, parce qu'il ne s'agit pas de croître en fréquentation et de construire des attractions après, sinon on crée de l'insatisfaction. Donc oui, ça fait partie des pistes qui sont réfléchies, mais encore une fois, il faudra faire les choses dans l'ordre. Je pense qu'il faudra d'abord densifier très fortement les expériences à l'intérieur du parc actuel avant d'entrevoir des choses à l'extérieur, mais bon, tout ça peut arriver très vite quand même.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
Aurélien Méry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable des animations et spectacles vivants. Précisément, en quoi consiste votre métier ?
On a plusieurs palettes d'activités au service animation et spectacle du Futuroscope. La première, j'ai envie de dire, c'est qu'on est marchand de bonheur pour nos visiteurs. Proposer une offre d'animation riche et variée dans les allées du parc avec nos personnages, c'est faire vivre nos personnages, qu'ils aillent à la rencontre de nos visiteurs, qu'ils puissent jouer avec eux, faire des belles photos et créer un vrai moment de partage. La deuxième chose, c'est d'exploiter des spectacles et créer de nouveaux spectacles avec de la technologie, de l'immersion. On travaille avec des partenaires vraiment importants comme le Cirque du Soleil, Bertrand Lotte qui est un des meilleurs illusionnistes français. On propose une offre de spectacle vraiment de qualité et variée à nos visiteurs.
Vous êtes donc responsable des animations et spectacles vivants. Spectacle vivant, c'est un terme qui m'a marqué parce qu'effectivement, le Futuroscope, quand on parle Futuroscope, on pense à s'asseoir dans une salle de cinéma, à mettre des lunettes 3D sur le nez. Mais finalement, le Futuroscope, c'est plus que ça.
Quand on vient faire un parc d'attraction, c'est sûr qu'on a envie d'aller faire des choses à sensation, on a envie d'être dans une immersion, on est un peu dans notre bulle en fait pendant toute notre visite. Et nous on part du principe que cette bulle elle est renforcée aussi par de l'expérience avec du vivant, et ce mot vivant est vraiment essentiel. Donc ça va être un spectacle en salle, ça va être des animations dans les allées du parc avec des spectacles aussi qui sont en extérieur. On est avec des performeurs, des artistes de haut niveau, et c'est ce côté vivant qui va rendre la performance encore plus waouh. Et cet effet waouh, c'est vraiment ce qu'on va rechercher en priorité dans ce qu'on va proposer à nos visiteurs.
Regardez au-dessus de vos têtes. Regardez vers le ciel. Voyez-vous les nuages ? Et plus haut, voyez-vous les étoiles ?
Pour cet effet waouh, comme vous dites, il y a notamment cette collaboration avec le Cirque du Soleil.
Nous avons le spectacle La Forge aux Étoiles qui est joué en fin de journée tous les jours. D'ouverture. C'est une rencontre entre une petite fille qui s'appelle Nebula et un géant qui font un voyage intersidéral et qui vont à la rencontre de différents personnages. Le spectacle a été lancé en 2016 au Futuroscope et c'est une belle signature que nous avons et dont nous sommes très fiers. C'est une collaboration un petit peu inédite. Le Cirque du Soleil, c'est quelque chose qu'on connaît souvent dans les grandes arénas ou sous chapiteaux. Pour les équipes créatives du Cirque du Soleil, c'était une première fois pour eux d'aller proposer un spectacle dans un lieu fixe sur de nombreuses dates. Le spectacle est joué plus de 250 fois par an. On est sur un spectacle vraiment très visuel avec de la fontainerie, de la lumière, sur une expérience vraiment inédite dans ce domaine-là. Et c'est vraiment une signature que nos visiteurs apprécient et qu'on est vraiment fiers de proposer.
L'été, c'est forcément un moment particulier pour le Futuroscope. Il y a plus de monde et puis il y a aussi des activités supplémentaires que vous proposez aux visiteurs.
Effectivement, c'est une période assez particulière chez nous qu'on attend avec impatience. L'été, on accueille plus d'un tiers de nos visiteurs annuels. On va densifier notre offre. À ce titre, on lance un énorme spectacle, Aqua Jump. C'est un spectacle qui est inédit en Europe où on a une performance en fait avec différents riders qui vont faire du flyboard. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir parfois sur la côte en termes d'initiation. Là, c'est un spectacle avant tout, trois fois par jour, sur la magnifique prairie de l'Arena Fun Experience. Nos visiteurs, ils aiment aussi prendre le temps quand ils viennent au Futuroscope. On a un parc qui est très arboré, qui appelle à la détente, au repos, à un côté très chill. On a plus de 300 fat boys disposés à différents endroits du parc.
Alors les fat boys, c'est ces gros fauteuils.
C'est un énorme coussin rempli de billes qui est adorable pour aller faire la sieste ou se reposer 5 minutes. Voilà. On a beaucoup de chaises longues aussi disposées à différents endroits du parc. Pour renforcer un petit peu tout cet esprit un peu cocooning qui appelle à la détente, on met en place aussi des animations musicales. Donc tous les jours, vous avez des fanfares en déambulation dans les allées du parc. Vous avez des animations de rue, avec des spectacles avec les lapins crétins, par exemple. Vous voyez aussi nos différents personnages, Scrat et Sid de l'âge de glace, qui arrivent de l'ère glaciaire pour venir à la rencontre de nos visiteurs. On va retrouver le guerlier de la vienne dynamique. On a un nouveau-né aussi cette année qui s'appelle Nano. C'est un robot qui accueille nos visiteurs tous les matins sur l'entrée du Futuroscope. On a aussi beaucoup de vie dans notre nouvelle ville, Futuropolis. Futuropolis, c'est la ville des enfants créée et imaginée par les enfants. Où on a Elastica et Darko. Elastica qui est la super-héroïne de Futuropolis et Darko, le méchant de la ville. Vous voyez, on a une palette d'activités assez variée qu'on va proposer cet été.
Futuropolis, ça fait partie des grandes nouveautés de 2019.
Exactement. C'est une nouveauté qu'on a lancée au printemps. Nous, les enfants, c'est notre cœur de cible. On a lancé un concours de dessin où les enfants pouvaient imaginer la ville du futur qu'ils souhaitaient retrouver dans un parc comme le Futuroscope. Et l'idée, c'est qu'on a été créer des attractions où on va être sur le partage. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des activités qui sont faites pour les enfants, mais qui peuvent partager avec leurs parents, avec leurs grands frères, avec les copains, avec leurs grandes sœurs. C'est la ville dont on rêve quand on est enfant. On peut être pompier, sauveteur en mer, pilote d'hélicoptère, pilote d'avion, être dans une tour de contrôle. On peut faire la tyrolienne. Voilà, c'est des choses qui sont normalement réservées aux personnes beaucoup plus grandes. Et nous, on l'a créé et adapté pour les enfants.
L'été, il y a aussi des rotations plus importantes concernant les projections.
En nombre de séances, vous voulez dire ?
Exactement.
Tout à fait. Le Futuroscope, l'été, est ouvert de 8h45 le matin jusqu'à 22h30. Nos pavillons sont ouverts vraiment longtemps pour qu'on puisse prolonger l'expérience de visite et proposer une offre diversifiée, que tout le monde puisse en profiter surtout. Et rendre l'attente beaucoup plus agréable, bien évidemment.
Voilà, c'est ça. C'est que souvent, au Futuroscope, comme dans beaucoup de parcs, ce que redoutent les visiteurs, c'est d'attendre trop longtemps. Vous aussi, votre rôle, c'est ça, c'est d'attendre, mais tout en s'amusant.
L'attente, quand on vient dans un parc d'attraction, c'est une vraie problématique. Donc c'est pour ça qu'on va aussi créer des spectacles en plein air, beaucoup d'animations aussi à côté pour diversifier l'expérience. Et on va aussi ramener de l'animation dans les files d'attente. Vous allez pouvoir croiser cet été la Brigade du Sourire, plusieurs comédiens et musiciens qui vont venir interagir avec nos visiteurs, proposer des animations pendant qu'on attend. On l'a encore testé récemment, l'attente est considérablement réduite et ça permet de passer une très belle journée en profitant au maximum de toutes nos attractions. Ça permet d'avoir des expériences de visite plutôt élargies.
Parmi les offres particulières à sensation, il y a ce bar, l'aérobar. La spécificité, c'est qu'on est à une trentaine de mètres du sol.
Vous êtes à 35 mètres du sol et l'idée, c'est de partager un verre avec votre entourage, avec une vue panoramique sur l'ensemble du parc du Futuroscope. On était les premiers à le proposer. C'est une expérience juste incroyable. On a les pieds dans le vide. Même si on a le vertige, on arrive à le faire. Pour ma part, je pense que c'est parmi mon expérience préférée au Futuroscope.
D'aller dans l'espace, ça permet de prendre un recul qu'on ne peut pas avoir sur Terre.
Et puis, justement, toujours à l'aérobar, vous proposez en nouveauté cette année de déguster un repas comme Thomas Pesquet.
Thomas Pesquet, le Futuroscope, c'est une belle rencontre. On était les premiers à diffuser son film Dans les yeux de Thomas Pesquet. C'est des images juste incroyables diffusées sur le plus grand écran de projection d'Europe en qualité 4K, donc avec la technologie IMAX. Et quand Thomas Pesquet est venu au Futuroscope, il a beaucoup raconté en fait toute cette expérience incroyable qu'il a vécue pendant plusieurs mois. On a assez rapidement fait ce lien entre cette aventure et ce bar qui est juste à côté de la salle de projection. Et l'idée, c'était de proposer une nouvelle expérience inédite. Toutes les équipes restauration qui sont énormément créatives au Futuroscope ont créé tout un dîner, ce qu'on appelle le dîner spatial, avec des produits qu'on peut manger dans l'espace. Par exemple, on ne peut pas manger du pain qui fasse plein de miettes, qui risque d'aller se coincer dans différents circuits d'aération, des choses comme ça. Donc c'est retravailler un produit qui ne va pas faire de miettes. C'est vraiment proposer une expérience gustative et de se croire en fait dans l'espace et de retrouver ce côté réel proposé derrière.
La marque Futuroscope propose justement de vivre des expériences. Ça, vous insistez là-dessus, et plus de 25 expériences à vivre ici au Futuroscope.
On est dans un milieu très concurrentiel dans le milieu des parcs d'attractions et de loisirs, et il faut qu'on puisse se démarquer de la concurrence. On va accueillir près de 2 millions de visiteurs par an, mais on veut prendre soin de chacun de nos visiteurs. Donc les expériences, elles vont se passer pendant toute la visite sur l'ensemble des pavillons, avec voilà, plus de 25 expériences inédites, immersives et vraiment enrichissantes. Mais ça se passe aussi à l'extérieur. On met énormément en place de choses pour les enfants, pour les adultes. Demain, vous venez nous voir au Futuroscope, c'est votre anniversaire, vous aurez le droit de repartir avec une petite surprise. C'est une surprise, donc je vais pas la dévoiler. Mais au moins, on se souviendra qu'on a fêté son anniversaire au Futuroscope. Quand on fait Danse avec les robots la première fois, pareil, on va faire un petit clin d'œil à nos visiteurs également. On va vraiment être sur cette expérience. L'idée, c'est qu'on se souvient de son passage au Futuroscope et on a envie d'y revenir.
Le Futuroscope propose chaque année des nouveautés parce qu'il faut attirer de nouveau les visiteurs qui sont déjà venus. Mais il y a aussi les classiques. Alors je pense par exemple à la Vienne Dynamique, qui est le grand succès du Futuroscope, un spectacle qui date des années 90.
Quand vous parlez du Futuroscope à un visiteur, la première chose qu'il va vous citer quand il est venu enfant et qu'il revient aujourd'hui, c'est la Vienne Dynamique. Il est content de retourner faire ce pavillon. Historiquement, c'est quelque chose qui a été fait pour la promotion du département de la Vienne. Et nous, on a su l'améliorer tout en gardant les codes du pavillon et les attendus, en proposant un retravail un petit peu sur la qualité du film et avoir ces effets plutôt 4D également, voilà, avec ces belles surprises qu'on peut proposer. Et effectivement, c'est un attendu et un classique. Et on sait que la Vienne Dynamique est très attachée dans le cœur de nos visiteurs, et nous, on y sommes très attachés également.
Donc en alliant la technologie et toujours le côté ludique, avec une réaction, une émotion chez le visiteur.
Je pense que c'est la première chose qu'on va rechercher dans ce qu'on va proposer. On l'a également aussi avec Sébastien Loeb Racing Experience, qu'on a ouvert l'année dernière. On est sur des sièges baquets, on embarque à côté de Sébastien Loeb, qui est un pilote qu'on connaît tous ici ou là. On est replongé dans cet univers avec notre casque de VR et ces sensations. Il n'y a qu'au Futuroscope qu'on peut vivre ce type d'expérience.
Des expériences, il y en aura encore beaucoup à vivre dans les années à venir. Vous avez un œil en tant que responsable des animations et spectacles vivants. Vous avez un œil sur ces projets en cours.
Je pense que la qualité de notre offre qu'on propose au quotidien, c'est de savoir se remettre en question, de se renouveler. Ce qu'on crée, en fait, on le crée avec le cœur. Et notre priorité, c'est que le visiteur y reparte avec le sourire. Donc effectivement, c'est quelque chose sur laquelle nous restons bien évidemment en veille. On est consulté, on donne notre avis et on fait aussi énormément de veille pour aller voir ce qui se passe, toujours être en force de proposition et pour être encore meilleur demain.
Et pour tous ceux qui ne sont pas encore venus, allez, vous avez 30 secondes pour convaincre. Pourquoi est-ce qu'il faut venir ici au Futuroscope ?
Il faut venir au Futuroscope ici pour découvrir une expérience atypique. On n'est pas dans un parc d'attractions classique. On a des beaux pavillons, on a des expériences juste dingues. On a des collaborateurs qui sont là avec un sourire permanent, cette bienveillance quotidienne. On va proposer une offre variée dans les allées du parc qu'on va retrouver nulle part ailleurs. Faire les métiers qu'on rêve de faire quand on est enfant, il n'y a qu'au Futuroscope qu'on peut le faire. Conduire une voiture avec Sébastien Loeb, il n'y a qu'ici qu'on peut le faire. Faire le tour du monde en moins de 5 minutes et avoir cette sensation de voler, moi je l'ai connu qu'au Futuroscope. Faire la connaissance des étoiles allongées dans un siège à choc cosmique. Voilà, c'est plein de choses. Et c'est de l'innovation, c'est de l'expérience, c'est de la sensation. C'est un package vraiment global et diversifié. Le parc est juste magnifique, encore plus l'été. C'est vraiment une très belle idée en destination de vacances.
Merci beaucoup Aurélien Méry.
Merci à vous.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette, qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcasts.